Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande 3 trucs cool en 20 minutes. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui nous allons vous parler de jeux vidéo, de BD et de séries. J'espère que vous êtes prêts à être émerveillés par ces recommandations que nous allons vous faire. Et pour cette dernière session, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois Emmanuel et Siegfried. Comment allez-vous, messieurs ?
Très bien, Patrick.
Ah bon, on ne change pas, toujours bien, toujours bien.
C'est bien, c'est bien. Je suis un petit peu triste que ça soit notre dernier épisode.
Déjà.
Mais oui, c'est passé tellement vite. On a l'impression qu'on est ensemble que depuis petites heures.
Ça fait plus de deux mois.
C'est dingue. Le temps se dilate quand on prend du plaisir, ou je ne sais pas s'il se dilate ou il se contracte.
Ça peut être très très mal interprété, ce que tu dis.
Ça n'est mal interprété que par les gens qui ont l'esprit mal tourné comme toi.
Oui, c'est vrai, ouais.
Mais il faut dire qu'ils sont peut-être assez nombreux sur l'Internet. Écoutez, c'est pas grave. Je vais quand même tenter de vous ramener vers la qualité indéniable, en vous parlant de ma première recommandation, qui est un jeu vidéo qui date pas d'hier, mais que je vais recommander en fait à ceux qui ne l'ont jamais essayé. Et c'est un petit peu compliqué, mais donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est l'extension du jeu The Last of Us, pas l'extension, mais le DLC, qui s'appelle The Last of Us Left Behind. Alors, c'est un jeu qui est disponible sur PlayStation 3 et PlayStation 4. C'est un jeu exclusif, donc, sur la plateforme de Sony.
Mais... Alors, déjà, excuse-moi, j'ai une question, parce que c'est un DLC pour lequel tu as besoin du jeu précédent, ou c'est un standalone qu'on peut acheter à part ?
Mais alors, justement, c'est là que c'est magique. Tu n'as pas besoin du jeu complet. Tu peux acheter le truc indépendant, ça coûte 10 €, et donc c'est uniquement la partie DLC, et ça a énormément d'avantages. C'est que, d'une part, c'est moins cher, donc t'es pas obligé d'être super fan du truc pour vouloir y jouer pendant des heures, enfin une dizaine d'heures à peu près. Là, je dirais c'est 3-4 heures de jeu peut-être, Left Behind, mais... C'est ce qui est vraiment... j'avais tendance à me dire, il faut éviter d'y jouer parce que ça gâche... il faut éviter d'y jouer seul parce que ça gâche le plaisir de l'histoire complète. Mais en fait, pas vraiment. Je me rends compte, parce que j'y ai rejoué 2-3 fois, et je me rends compte que ça peut être pris comme une histoire indépendante dont on va découvrir le contexte général si on décide de jouer au jeu complet ensuite. Ça peut vraiment fonctionner. Alors oui, ça explique quelques petits éléments du truc, mais c'est pas vraiment quelque chose de d'irrécupérable. Et le plaisir qu'on tire du fait de découvrir ensuite le contexte général a sa valeur aussi. Mais au-delà de ça, un des trucs qui est vraiment une qualité intrinsèque de ce petit, entre guillemets, DLC, c'est qu'il est petit, justement. C'est qu'il n'est pas hyper long. Et du coup, pour des gens qui sont hyper occupés comme nous tous aujourd'hui dans la vie moderne tellement rapide, et des gens qui ne veulent peut-être pas s'investir au-delà de l'investissement financier, qui est une chose, mais qui est peut-être parfois moins important que l'investissement de temps, je pense qu'il y a une vraie un vrai avantage à jouer à Left Behind, puisqu'on peut le finir en une, deux, trois sessions, et vraiment retirer une expérience hyper satisfaisante de cette extension, sans avoir, bah, encore une fois, à investir une dizaine d'heures ou une quinzaine d'heures dans le jeu complet. Alors, je vais quand même expliquer de quoi il s'agit, sans spoiler, mais c'est un univers post-apocalyptique où l'humanité a été presque décimée par des spores qui transforment... C'est un petit peu un post-apocalyptique zombie avec une petite différence, mais qui est anecdotique. C'est comme dans tous ces univers de zombies, on a deux sources de danger dans cette société qui s'est effondrée. C'est soit les entre guillemets zombies, soit l'homme est un loup pour l'homme, et donc c'est les autres
derniers humains.
Voilà, les derniers humains qui, bien sûr, au lieu d'essayer de collaborer pour créer une société qui survit, vont aller se chasser, essayer de trouver les ressources qui sont devenues difficiles à obtenir, etc. Donc, c'est dans ce contexte, il y a dans le jeu principal deux personnages, Joël, qui est un adulte, et Ellie, qui est une adolescente, et on joue principalement, enfin, on est principalement Joël dans le jeu principal, et là, on a une petite parenthèse dans l'aventure principale, où on sait pas vraiment ce qui se passe dans le jeu principal, et ben, c'est raconté dans la partie Left Behind, justement. Donc, on joue Ellie, donc on joue la petite, Et on la joue à différents moments de l'aventure, on va dire. Je ne vais pas trop spoiler, mais ça raconte vraiment son histoire à elle de manière assez intéressante au niveau narratif pour le jeu. Et pour ceux qui ne connaissent pas les jeux Naughty Dog, je pense qu'ils sont peu nombreux, mais c'est vraiment des jeux qui sont essentiellement basés sur la narration. Le gameplay est sympathique, mais ce n'est pas l'élément principal du jeu. Donc, on peut même, à la limite, y jouer en facile sans problème et suivre la narration du truc. Pardon. Et donc, voilà, c'est un jeu que je recommanderais. Bon, il faut être fan de jeux vidéo, mais je le recommanderais vraiment à tout le monde parce que, pour moi, il y a dans les jeux Naughty Dog, et en particulier dans le jeu The Last of Us, une force qui est très particulière dans l'émotion qu'il fait passer. Et The Last of Us est sorti il y a un moment maintenant, et il a été adulé, enfin en tout cas vraiment reçu d'excellentes critiques de l'ensemble de la presse et de la presse et des joueurs. Il a reçu, enfin c'était jeu de l'année partout, machin, c'est un jeu d'une incroyable qualité. Et je reviens à ce que je disais au début, ce que peut apporter cette extension, enfin ce DLC disponible seul, c'est la possibilité pour tout le monde d'avoir une expérience de ce jeu. Et vraiment pour moi, le DLC a une qualité qui est indéniable et qui est aussi forte que la qualité du jeu entier. Donc, c'est vraiment un petit morceau du plaisir et de l'émotion qu'on ressent à jouer à Last of Us. Donc, je le recommande.
On peut le faire sans pour autant avoir fait The Last of Us en premier. Tu peux le faire
complètement.
Avant, je veux dire.
Oui, complètement. J'hésitais au début à dire ça, mais vraiment, en y réfléchissant, je crois qu'il y a... je deviens vraiment ferme dans ma recommandation. On peut complètement... C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'avez pas fait The Last of Us dans son ensemble, je pense que vous n'allez pas le faire. Enfin, oui, si vous vous dites, idéalement, si vous voulez absolument vous lancer dans The Last of Us, oui, peut-être qu'il vaut mieux faire The Last of Us avant. Mais ne vous sentez pas du tout coupable de lancer uniquement Left Behind, et peut-être même que vous prendrez assez de plaisir à Left Behind pour aller essayer The Last of Us ensuite, et vous n'aurez pas vraiment raté quoi que ce soit. C'est un tout petit mini spoil qui est pas vraiment important, quoi. Donc, si vous l'avez pas fait jusqu'à maintenant parce que vous dites je vais pas me lancer dedans, eh ben, Left Behind, c'est encore une fois, quoi, 3 heures de jeu. Donc ça se fait rapidement et ça vous apportera ça vous donnera le goût, ça vous permettra de dire je sais ce qu'est The Last of Us, et c'est vraiment important parce que le jeu est super bon, quoi. Donc voilà, recommandé à tout le monde. Vous avez une PlayStation 3, une PlayStation 4. Je crois qu'il est disponible même sur PlayStation 3 en indépendant. Et ça vaut vraiment le coup de le faire, quoi. Donc ma recommandation très très convaincue sur ce petit jeu qui est quand même un jeu narratif. Donc si vous êtes super fan de gameplay hyper serré, type je sais pas un platformer, un boss rush, ce genre de truc, c'est peut-être pas pour vous. Mais c'est une expérience cinématographique vraiment mémorable, quoi.
Alors, j'ai pas encore de PS4. J'ai tenu bon jusqu'à présent, mais c'est certain que si à un moment je craque, Last of Us fera partie des jeux que je ferai.
Est-ce que tu as une PlayStation 3 du coup ?
Non. Ah non. D'accord, j'ai une Xbox 360.
Bon bah du coup, malheureusement, tu ne pourras pas y jouer avant d'avoir ta PlayStation 4. Dommage.
Moi j'ai les deux et à mon avis, c'est possible que peut-être l'année prochaine, tu sais, avec le PlayStation Plus, tu as des jeux gratos tous les mois. Mm-hmm. Et ça, typiquement, c'est le genre de jeu qu'à mon avis, dans 6 mois, on peut avoir gratos, peut-être avec l'abonnement.
Tu sais, c'est possible, mais le truc, c'est que ils sont... Oui, et pardon, je confirme, il est disponible sur PlayStation 3 en standalone aussi. Mais le truc, c'est que le PlayStation Plus, maintenant, il y a 2 ans, ils offraient des jeux de super qualité.
Bah, je crois que The Last of Us, le premier, je l'avais eu comme ça. Pas joué, il est dans ma bibliothèque depuis 10 ans, mais bah, il me semble qu'il l'avait donné, je crois.
Franchement, ça m'étonnerait. The Last of Us, c'est quand même un de leurs énormes titres. Ça m'étonnerait qu'il le donne sur...
J'avais eu un gros jeu comme ça. Bon, je ne me rappelle plus. Mmh. Mais...
enfin, bon, moi je compterais pas trop sur le fait qu'il soit disponible, parce que maintenant qu'ils ont la plus grosse part de marché, ils n'ont plus besoin d'offrir des jeux d'incroyable qualité pour faire venir les gens. Donc, c'est plus trop leurs best-sellers qu'ils donnent avec le PlayStation Plus maintenant. Donc, mais l'extension, c'est 10 euros, quoi. Donc, je dirais ça vaut l'investissement.
Si, a priori... La version remastered, elle avait été... remarque, non, je ne sais pas, c'était peut-être... Bref, on s'en fout.
Bon, mais... bref, écoute, je ferai mes recherches et je verrai si c'est le cas.
Le problème, c'est que je n'ai pas le temps de jouer, en fait. Comme beaucoup de monde, j'achète des jeux et en fait, j'y joue jamais. Parce que
mais
j'ai
voilà,
pas le temps.
Left Behind, c'est 3 heures. Donc,
ouais, c'est vrai que du coup, c'est tentant, ouais.
Ouais, c'est vraiment pour ça que... je vais même vérifier combien de temps ça dure, parce qu'il y a un site qui est super pratique qui s'appelle « How long to beat ?» et ça vous dit combien de temps dure un jeu. Et ben, The Last of Us Left Behind, c'est 2h30, voilà, pour le truc principal. Donc vraiment, c'est le temps d'un film, vous avez plus d'excuses.
Ok, j'ai essayé, peut-être me laisser tenter alors.
Très bien, tu me diras ce que t'en penses du coup. Avant de te laisser tenter, dis-nous de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui.
Alors, je vais vous parler pour cette dernière session donc d'une BD ou d'un roman graphique, ça dépend comment on l'appelle, que j'adore personnellement, qui s'appelle L'Arabe du Futur. Je ne sais pas si vous l'avez lu, du coup.
Écoute, moi, mon frère et ma mère m'en ont dit énormément de bien, mais je ne l'ai pas lu moi-même. Donc, peut-être que toi, tu réussiras à me convaincre mieux famille.
Je vais essayer de vous convaincre, alors. Alors, L'Arabe du Futur, c'est dessiné, c'est écrit par Riyad Satouf. Riyad Satouf, que beaucoup de gens connaissent plus pour ce qu'il a fait au cinéma, à savoir, dernièrement, il avait fait Jackie au Royaume des Filles, que vous avez peut-être vu, ou Les Beaux Gosses, en 2009. Donc, il avait scénarisé et réalisé ces deux films. Mais, avant tout, son premier métier, c'est la bande dessinée. Il a commencé dans Fuite glaciale, où il a fait deux, trois choses. Il a continué après, entre autres, par des bandes dessinées comme Retour au collège, parce que c'est un peu sa passion et... le drame de sa vie, c'est le collège et l'école qui l'ont très marqué. Il a beaucoup revenu là-dessus. Et donc, il y a maintenant quelques années, je pense que c'était il y a 3 ans peut-être, il a commencé à écrire une bande dessinée qui s'appelle L'Arabe du Futur. C'est autobiographique et ça raconte donc sa vie, sa jeunesse en tout cas, dans les années 80, quand il est parti au Moyen-Orient avec son père, qui était lui prof d'université, et donc sa mère, et en famille, ils sont partis vivre là-bas, d'abord en Libye, et puis ensuite en Syrie. qui était donc la patrie de son père. Et c'est toute sa vie dans ces années-là qu'il va raconter de son propre point de vue, donc du point de vue de l'enfant en fait, qu'il a gardé. Et c'est une bande dessinée qui était en projet depuis longtemps en fait, et qu'il a finalement décidé de faire au moment de la guerre, où la guerre en série a commencé, et c'est vraiment ce qui a propulsé son envie de réaliser ça. Alors, il y a 3 tomes qui sont sortis, je sais pas, non, vous avez pas vu du coup?
Non, pas du tout.
Ok, d'accord. Donc, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, chacun correspondant à une époque, donc 2-3 ans de sa vie en règle générale, et il y a encore plusieurs tomes qui devraient sortir, probablement 2 ou 3, je pense, dans les prochaines années. Ça a reçu beaucoup de prix, hein. Il y a eu des prix d'Angoulême, ça a été la critique a été dithyrambique dessus. Et,
j'ai souvent entendu parler, effectivement, elle est très réputée.
Ouais, et nous, c'est vraiment, c'est une BD. Si tu la commences, honnêtement, tu la lis d'un trait, et tu vas même la relire plusieurs fois après, tellement c'est génial. Alors,
mais pourquoi est-ce que c'est génial du coup ?
Eh bien, c'est génial déjà parce que ça te permet. C'est quelqu'un, Riyad Sattouf, qui sait très très bien raconter des histoires, et le fait de voir par ses yeux le Moyen-Orient dans les années 80. Sans filtre, vraiment, parce que ça peut être, c'est à la fois très dur dans certaines scènes, émouvant dans d'autres, et tu t'ennuies pas une seconde. Tu vas commencer à lire le bouquin et tu vas te lancer d'une traite. Je vois pas comment tu peux t'arrêter quand t'as commencé, tellement c'est bien écrit. Le style de Sattouf, après, c'est un style qui est plutôt simple et qui est capable en une case de te raconter beaucoup de choses, alors que peut-être qu'il aurait fallu 2 pages dans un bouquin pour te décrire une scène. Il est capable en une image, je trouve, de te montrer des choses que tu aurais du mal à décrire. Et ensuite, évidemment, par tout ce que tu peux apprendre sur la Libye, la Syrie à l'époque, et qui va préfigurer certains événements historiques, puisqu'effectivement, du côté de la corruption, de la misère de certaines zones rurales, aussi du totalitarisme à l'époque, de la façon dont les dictateurs, que ce soit Kadhafi, vont se mettre en avant, si tu veux, sont présentés à la population, c'est super intéressant. C'est vraiment quelque chose qui est absolument génial. Et ensuite aussi, la façon dont il va décrire sa propre famille, parce que bon, il y a beaucoup de personnages dedans, mais surtout lui-même, évidemment, et son père, sa mère, et surtout son père, puisque son père, c'est lui qui est... comment dire, le second personnage principal, entre guillemets, puisque c'est lui qui va venir faire ses études en France, rencontrer sa mère qui, elle, est bretonne, et qui va vouloir partir pour aller donner des cours à l'université là-bas. Et c'est la façon dont il écrit son père qui est à la fois, si tu veux, qui est quelqu'un de plein de contradictions, voilà, qui milite pour le fameux Arabe du futur, donc le titre du livre, qui voit comme moderniste, en même temps proche des traditions, et qui lui-même y croit pas. Tu le sens désabusé, si tu veux, dans son dans la façon dont une fois sur place il se rend compte de la réalité des choses. Quand il revient dans sa famille, il est vraiment tiraillé entre ses convictions personnelles, entre la tradition familiale et le fait d'amener comme ça, un peu n'importe comment, si tu veux, sa famille, sa femme qui en peut plus au bout d'un moment de vivre comme ça alors qu'elle vient de France. Les retours en France réguliers, parce que régulièrement, tous les ans, ils repartent en Bretagne. Donc, le choc des cultures aussi, entre un enfant qui va à l'école en Syrie, qui tout d'un coup se retrouve pendant un an à retourner à l'école en France. Et c'est plein de choses comme ça qui sont émouvantes, qui sont super justes, qui sont très belles. Vraiment, les trois volumes sont absolument fantastiques. Donc, c'est quelque chose que je recommande pour tous. Alors après, il y a eu, effectivement, il y a eu des polémiques sur le bouquin. Pas beaucoup, mais il y a des gens qui trouvent que Riyad Sattouf, au contraire, par certains côtés, renforce les stéréotypes que tu peux avoir sur le Moyen-Orient, sur la vie là-bas, etc. Ce qui, lui-même a dit simplement qu'il présentait ça tel qu'il avait vu, avec ses yeux d'enfant. Et beaucoup de personnes, entre autres des Syriens, on dit que en fait c'était réel, c'était présenté comme ça, mais il y a eu quelques petites polémiques là-dessus. Mais en tout cas, ça reste des très très beaux ouvrages et à lire et à relire souvent. Voilà.
D'accord. Ok, très bien. Bah, écoute, ça a l'air effectivement assez intéressant. Juste une question, c'est émouvant, c'est drôle ou c'est genre
c'est très drôle. Il y a des moments très drôles.
C'est pas une leçon d'histoire, quoi. C'est aussi
non du tout, parce que c'est vraiment vu par ses yeux. Il y a des éléments historiques qui évidemment apparaissent, mais c'est vraiment vu par ses yeux d'enfant. Et en même temps, il y a des moments très durs. Il y a un moment où il y a une histoire avec, par exemple, une histoire de crime de sang par rapport à une femme qui je vais pas trop tout vous raconter, mais qui a été avec un autre homme, etc. Et c'est à la fois terrible, si tu veux, mais à d'autres côtés, il y a des moments qui sont très drôles aussi, parce que lui, par ses yeux d'enfant, voit des choses, si tu veux, il les raconte, il sait très bien raconter. Et donc, il y a tout, mais tu vas aller du rire aux larmes. D'accord. Peut-être pas jusqu'aux larmes, mais en tout cas, c'est vraiment un chouette bouquin.
D'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Siegfried.
Mais de rien.
Et enfin, pour terminer cette session, pour y mettre un point final glorieux, c'est à toi que revient la dernière recommandation, Emmanuel.
Oula, glorieux. Alors, espérons. Donc, je vais vous parler de télé cette fois, avec une série qui s'appelle The Expanse, qui a commencé en 2015 et qui est adaptée de bouquins, une fois de plus, de James S. A. Corey. Donc il y a 6 bouquins, je crois, et des nouvelles qui ont commencé à être publiées en français, je crois, en même temps que la série. Donc vous devriez pouvoir les trouver, au moins les premiers en français. Mais donc là, je vais vous parler de la série parce qu'elle est très réussie et c'est une des adaptations qui fait plaisir à voir. C'est une série de space opéra avec une approche relativement réaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans du Star Wars, du Star Trek. On est dans
space opéra, quoi.
Bah, si, c'est du space opéra dans le sens où on est.
Ouais, on est ce que tu veux dire.
Dans l'espace, mais au début,
c'est
en tout cas.
C'est science-fiction réaliste.
Dans le système solaire. Mmh. Donc, on va suivre un groupe de héros qui, au début de l'histoire, travaille sur un transporteur de glace, puisque. Donc on est dans une période où le système solaire est colonisé. On a comme force principale toujours la Terre, mais aussi Mars, et une base importante sur la Lune, et plein de bases un peu partout dans le système solaire, et des stations spatiales qui peuvent compter plusieurs centaines de milliers d'habitants. Donc on a quand même beaucoup de monde réparti partout dans le système solaire. Et au niveau politique, il y a globalement 3 organisations, la Terre, Mars et ce qu'on appelle l'OPA, c'est Outer Planet Alliance, c'est-à-dire une sorte de regroupement de tout ce qui se trouve plus loin que Mars, en gros. Donc ça, c'est les forces, disons, politiques, sachant que l'OPA, ce n'est pas vraiment une entité politique vraiment ferme comme un gouvernement, quoi. Donc les héros, ils transportent de la glace. Cette glace, elle sert à faire de l'eau, de l'air sur les stations. Et ils vont, comme c'est souvent le cas dans la science-fiction et le space opéra, ils vont avoir un SOS qui vont devoir aller investiguer pour voir ce qui se passe, s'ils peuvent sauver quelqu'un. Et là, pendant que nos 4 héros sont en sortie dans leur petit vaisseau, leur vaisseau principal va être attaqué et massacré. Et donc, ils vont commencer toute une saga. Ces quatre pauvres gars, il y a un pilote, il y a un gars qui était un officier qui est un ex de l'armée, il y a une technicienne, il y a un gars qui est plus ou moins médecin, je crois. Enfin, et ils se retrouvent, ils s'aimaient pas forcément, ils se retrouvent ensemble embarqués dans ce truc-là, à lutter pour leur survie d'abord, puisque les assaillants vont essayer de les éliminer vu qu'ils sont témoins, et puis à essayer de découvrir ce qui s'est passé. Et le héros principal, qui s'appelle James Holden, va faire un truc, c'est qu'il va dire il faut que le monde sache ce qui vient de se passer. Et il va envoyer un message broadcasté à tout le système solaire en disant qu'ils ont découvert avant que ça se passe, avant que le vaisseau soit détruit, ils ont découvert, là où il y avait le SOS, une balise martienne. Donc, qui tendrait à dire que c'est Mars qui a fait ça, qui a fait ce SOS pour détruire le vaisseau, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Mais son message va faire exploser toutes les tensions politiques qu'il y a dans le système solaire, toutes les tensions entre les trois puissances, si on peut dire. Et ça va faire dégringoler tout ce qui restait de, horizon de paix. Et du coup, on va partir vers les débuts d'une guerre dans le système solaire.
Enfin, en la même menace. Temps, la, me, c'est, ça,
la menace d'une guerre au début. Mmh. Et en même temps, on a une autre intrigue, qui est une intrigue scientifique d'une quelque chose d'assez mystérieux qu'on connaît sous le nom de protomolécules au début, qui a été découvert sur une base de recherche. Cette base de recherche a été décimée, on ne sait pas par quoi. Le gouvernement à qui elle appartenait ne dit rien. Donc il va y avoir une intrigue là-dessus. Et on va suivre un autre personnage qui est un flic dans une station spatiale, qui lui va enquêter sur cette protomolécule, mais en y arrivant par un moyen détourné, parce qu'il doit d'abord s'occuper d'une nana que son chef lui demande de récupérer, parce qu'elle est la fille d'un très très riche CEO d'une des grandes corporations. Et donc évidemment, ils vont finir par se retrouver, et on va avoir toute une saga avec toutes ces tensions, une saga qui est en partie militaire. Il va y avoir des combats spatiaux, il va y avoir de la stratégie, il va y avoir cette fameuse protomolécule, toutes les intrigues et l'endroit d'où elle vient, parce qu'on va rapidement comprendre que c'est un truc qui est pas issu de l'humanité, en fait. Donc voilà, c'est le début
N'en dis pas plus.
D'une grande saga, et avec des très bons personnages, hein, et donc j'insiste sur l'aspect réaliste qu'on voit assez rarement, en fait, en science-fiction. Des choses comme la gravité, comment on gère la gravité quand on est dans un vaisseau qui doit aller très vite, comment on gère les temps de trajet, etc. C'est un aspect qu'on voit rarement dans la science-fiction et qui est aussi intéressant. Voilà.
Moi, je l'ai vu.
Moi aussi, la série est assez belle en plus, hein, sur le.
Oui. Effectivement, j'ai oublié de le dire. Si vous connaissez, c'est une série sci-fi. Si vous connaissez les séries sci-fi, en général, c'est des productions qui ne sont pas de très haute qualité. par exemple, il y a Dark Matter et Killjoy, qui, même si on peut les apprécier pour diverses raisons, on est loin du cinéma. Et là, au contraire, on a une production vraiment de qualité, avec des beaux effets spéciaux, un bon casting, et des histoires super, puisqu'elles viennent des bouquins, et ce n'est pas pour rien que ces bouquins ont été choisis. Donc vraiment, c'est de la grande qualité de science-fiction, et je trouve par exemple, on n'avait pas vu depuis Battlestar Galactica, je trouve, une grande série de science-fiction. Et voilà, maintenant, on a The Expanse.
Alors, moi, je l'ai vu, donc, comme je disais, et je l'ai vu sur longtemps, sur plusieurs, je ne sais pas, peut-être genre 3 mois, un truc comme ça.
Ah, d'accord.
Et du coup, j'ai été quand même hyper... c'était quand même assez confus. Et je me demande si c'est juste moi qui ai... Parce que j'en ai beaucoup entendu de bien, mais vraiment, je me dis... moi, c'était... J'ai jamais compris qui étaient les Belters et quoi... Qu'est-ce que voulait pas l'OTA, mais l'OPA. Qu'est-ce que... Enfin, il y avait vraiment cette...
C'est une série qui mérite d'être regardée en une seule fois. Enfin, pas trop éloignée les uns des autres. Parce que l'intrigue peut être un peu... pas complexe, mais en tout cas, voilà, si tu as un peu oublié les premiers épisodes, c'est pas forcément évident.
Mais du coup,
Il y a beaucoup d'histoires politiques et d'intrigues qui se mélangent avec les différents personnages avant qu'ils se regroupent aussi.
J'ai juste vu la première saison, mais je l'avais regardé en l'espace de 3 semaines, peut-être, donc c'était pas c'était encore assez frais dans mes souvenirs.
C'est juste moi qui ai pas tenu le rythme. Mais
j'avais lu les bouquins avant, donc je connaissais déjà.
D'accord.
C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas eu de mal à comprendre ce qui se passait, mais en tout cas, il y a déjà 2 saisons et la 3e arrive début 2018. Je crois.
D'accord. Bon, et donc l'adaptation est bonne, le truc et l'histoire est cohérente. C'est juste moi qui suis un petit peu attardé.
Il me semble en tout cas. Okay.
Bon, très bien. Ok, et donc toi, tu la recommandes également, Siegfried, puisque tu l'as vu.
Ouais, c'était, j'en ai un bon souvenir en tout cas de la première saison, parce que j'ai pas vu la deuxième. En tout cas, ça me donne envie de voir la seconde. Voilà.
D'accord. Ok, très bien. Et écoute, merci beaucoup, Emmanuel. Et donc, je vais vous rappeler tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Il y avait The Last of Us Left Behind, un jeu vidéo pour tout le monde. L'Arabe du futur, une BD pour tout le monde. et The Expanse, une série pour tout le monde aussi. C'est la fête.
Peut-être
à
pour
tout
les
monde.
Fans, alors, vu ce que tu nous dis, je sais pas.
Bah, je dirais, je comprends pourquoi tu dis pour tout le monde, parce que l'aspect science-fiction est vraiment juste le cadre. Et le reste, c'est des tensions géopolitiques et l'enquête qui est hyper présente aussi. Donc oui, ça peut ne pas plaire à certaines personnes si vraiment vous êtes complètement opposé à ce genre de truc, mais je crois que on peut dire c'est pour tout le monde, parce que c'est pas justement, comme tu disais, c'est pas Star Trek, c'est pas Star Wars, c'est pas genre voilà, vous êtes dans l'espace, il y a des lasers et des trucs bizarres, quoi. Donc effectivement. Bon bah super, merci à vous deux, encore une fois et pour la dernière fois de cette session, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur internet, à commencer par Siegfried?
Eh bah écoute, Captain Web sur Twitter, et puis sinon sur iTunes ou sur Google, vous cherchez Apéro du Captain et vous trouvez le podcast, voilà.
Un podcast de qualité, avec toujours...
Et de longue durée en général.
C'est ça. De très très longue durée. Ouais.
La certitude de passer un moment particulier.
Voilà, c'est ça. Si vous voulez tout écouter, vous en aurez pour à peu près 30 jours. Donc c'est pas aussi long que la Compagnie des Glaces, mais ça va vous prendre un petit moment. Voilà.
Très bien. Bon, bah, merci Siegfried. Emmanuel, où on te retrouve?
Et pour moi, uniquement sur Twitter, @legeek.
Parfait. Mais écoute, on n'a pas besoin de plus. Twitter peut également vous occuper bien plus de 30 jours. Donc, c'est très, très bien. Les geeks sur Twitter. Merci à toi, Emmanuel. Merci à Siegfried. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous retrouvez également sur frenchspin.fr les notes de cette émission, toutes les archives également disponibles en podcast. Vous pouvez, rendez-vous compte, il y a 96 épisodes où vous aurez à chaque fois des trucs cool et sympathiques qui vous seront recommandés. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et vous aurez également d'autres émissions comme le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous Jeu qui vous résume l'actualité de ces sujets, l'un et l'autre. Et voilà, c'est la fin donc de cette session, comme je le disais. Je garderai dans mon cœur un souvenir ému du moment que nous avons passé ensemble, de ces longues heures que nous avons partagées. Et je sais que jamais elles ne pourront être égalées par qui que ce soit, mais je sais que j'aurai toujours la mémoire qui pourra me réchauffer, la mémoire de ces moments partagés.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli, en tout cas.
C'était un plaisir.
Merci Patrick.
Nous nous retrouverons, nous, avec bien sûr une nouvelle session qui sera certainement d'une qualité moindre, hein, parce que les sommets de celle-ci seront difficiles à égaler, mais nous continuerons tels les trains dans la glace de la Compagnie des Glaces à avancer malgré tout dans le froid et la solitude de l'hiver. Nous le ferons pour vous et pour nous un petit peu aussi. Nous reviendrons donc dans une quinzaine de jours avec de nouveaux épisodes. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao.
Bye bye.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.